Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Relations et Québec Science. Au programme, complotisme, quand la croyance s'emballe. Et quel arbre cause le plus d'allergies saisonnières? Bonne écoute.
Complotisme, quand la croyance s'emballe, par Siegfried L. Matelet et Xavier Camus. Paru à l'automne 2021 dans la revue Relations. Loin d'être les seules élucubrations d'individus psychologiquement instables, les théories du complot répondent à un besoin, celui d'avoir une prise sur sa destinée dans un contexte d'incertitude et de perte de confiance envers les institutions détentrices du savoir. Voilà plus d'un an que l'état d'urgence sanitaire au Québec est reconduit de décret en décret. Les mesures imposées par les autorités entraînent naturellement des critiques, des questionnements, voire des contestations, autant d'attitudes considérées en général comme des signes de vitalité démocratique. Une contestation judiciaire a d'ailleurs permis d'exempter les personnes itinérantes du couvre-feu, par exemple. Des lanceurs d'alerte ont aussi révélé qu'on nous cachait bel et bien des choses sur l'état de la ventilation dans les écoles. Et la presse nous a appris que le gouvernement, contrairement à ses prétentions, n'a pas toujours suivi les recommandations de la santé publique concernant la fermeture de certains lieux publics, dont les musées. C'est que le jeu politique, tout comme celui du marché, n'est pas transparent. Il comporte sa part de demi-vérité et de stratégie concertée, voire d'authentiques complots qu'il convient de savoir déceler. Par ailleurs, les événements exceptionnels suscitent toujours des rumeurs. De nos jours, elles sont disséminées et amplifiées par Internet. Mais de tout temps, pareil contexte anxiogène est propice au dévoiement des questionnements et de l'esprit critique. Par exemple, des voix dissidentes s'élèvent face au consensus scientifique établi sur la virulence et la dangerosité du virus SRAS-CoV-2. Elle questionne systématiquement la comptabilisation des victimes. Elles évoquent d'éventuels motifs cachés derrière les restrictions aux libertés exigées par l'état d'urgence sanitaire. Elles poussent parfois la critique jusqu'à évoquer un méga-complot ourdi par une élite aux intentions maléfiques, contrôlant la finance et l'économie mondiale et ayant à sa botte les États de la planète. L'état d'urgence y est comparé à une dictature mondialisée et, dans quelques cas, le vaccin fait craindre une modification de l'ADN. Dans de telles circonstances, on passe alors de la remise en question des faits à leur explication systématique par des théories du complot imbriquées les unes dans les autres. Selon les résultats d'une enquête de l'Institut national de santé publique du Québec, au cours du mois de juin 2020, plus du tiers, 35 % des répondants, estimaient que le gouvernement leur cachait des informations importantes à propos de la pandémie. Un répondant sur quatre, 23 % croyaient que le virus avait été créé en laboratoire. Ils étaient moins nombreux, toutefois, à croire qu'il existait un lien entre les tours de télécommunication 5G et le virus, 6 %. Ces données obligent à se questionner sur le complotisme tel qu'il se manifeste actuellement et sur les acteurs qui l'alimentent, créant un mouvement qu'on ne peut ignorer. Qu'est-ce que le complotisme? Le complotisme ne se résume pas à expliquer des événements par un complot, ni à douter d'une version officielle. L'invasion de l'Irak en 2003, par exemple, a été officiellement justifiée par l'existence alléguée d'armes de destruction massive. Situer ces allégations mensongères dans le cadre d'un programme politique concerté et dissimulé n'est pas du complotisme. Certains experts parlent d'un style de discours de type paranoïde. D'autres, d'une tendance à vouloir expliquer l'histoire dans son ensemble par un complot. Il est fréquent de classer les différentes manifestations du phénomène suivant leur portée, selon qu'elles dénoncent un simple fait ou une organisation ou l'ensemble de la marche du monde. Ou encore de les catégoriser selon leur complexité sur un continuum en quatre temps. Se manifeste d'abord un vague sentiment qu'on nous cache quelque chose, puis une idée, encore hypothétique, selon laquelle on pourrait bien nous cacher la vérité. Ensuite, une croyance ferme en un complot et, finalement, une idéologie qui explique la réalité par une série de complots imbriqués. Seuls les deux derniers stades caractérisent le complotisme. On peut également classer ces théories selon leur objet. Complot juif, franc-maçon, reptilien, du New World Order, etc. Elles prennent fréquemment la forme d'un millefeuille argumentatif. Cette structure s'inspire de l'abbé Baruel, qui a popularisé l'idée d'un complot ourdi par les Illuminati, lesquels formeraient une loge secrète contrôlant d'autres loges de francs-maçons qui seraient ultimement contrôlées par les Juifs. Ce schéma d'imbrication et de superposition de complots permet de suggérer et de choisir à sa guise les vrais responsables. Élite sanguinaire, secte Illuminati, Juifs, extraterrestres ou Satan lui-même. Il n'est pas rare de réduire le complotisme comme phénomène social à la seule psychologie des personnes y adhérant, des individus qui seraient tous sous l'emprise d'entrepreneurs du web dont la tâche est grandement facilitée par les algorithmes des médias sociaux. Certes, des mécanismes cognitifs comme le biais de confirmation ou de la profondeur de l'explication explique l'attrait des théories du complot auprès d'un certain public. Pourtant, il serait présomptueux de concevoir le complotisme comme dénué de sens et sans prise sur la réalité. Au contraire, il vise justement à donner sens aux événements historiques. S'il trace des liens là où d'autres voient des coïncidences, il ne s'échafaude pas moins sur une forme d'empirisme en ce qu'il renvoie à une myriade d'articles de journaux, de publications scientifiques, parfois douteuses, et de déclarations publiques. Il interprète les faits comme autant de signes qu'un esprit critique doit savoir décoder pour apercevoir la réalité cachée. Le complotisme laisse néanmoins à ses détracteurs la tâche titanesque de dénouer des erreurs d'interprétation ou des liens infondés dans un ensemble de domaines spécialisés. Il laisse aussi à ses adeptes la tâche de constamment perpétuer leurs recherches pour décoder d'éventuels signes. Complotisme et quête de sens. Le complotisme associe une vision séculaire, voire machiavélique, de la politique à une compréhension spirituelle et millénariste de l'histoire humaine. Le complot représente les forces du mal qui manipulent le capitalisme et les relations internationales, par exemple, de façon proprement inhumaine. Les perturbations dues à la COVID-19 et à l'urgence sanitaire représentent les tribulations d'une époque sur le point de finir. La crainte que le vaccin n'affecte l'ADN ou qu'il vise l'injection d'une micropuce indispensable aux transactions du quotidien fait figure apocalyptique de marque de la bête. Cependant, ses adeptes mettent de l'avant que le règne du mal laissera place à une période d'amour et d'harmonie. Inutile par conséquent pour eux d'être violents. Dans un esprit « New Age » ou « Nouvel Âge », ce nouveau millénaire s'amorcera, à leurs yeux, par une conversion spirituelle qui amènera un renouveau matériel. L'enjeu est de prendre conscience du complot et d'en conscientiser les autres. Le complotisme plonge ainsi ses adeptes dans une attitude peut-être moins dogmatique que prosélyte. Lucie Mandeville, professeure de psychologie à la retraite, qui soutient le mouvement complotiste au Québec, indique cette voie salutaire dans un échange avec l'un de ses chefs de file, Steve Charland, diffusé sur Facebook le 4 janvier dernier. Le pouvoir est au peuple, et s'il savait, on l'aurait en un claquement de doigts. Dans un horizon millénariste, il faut informer le peuple du complot malveillant, ourdi par une élite dénuée d'humanité pour qu'il s'estompe. S'ouvrira alors une période d'émancipation. Bien que parasité par des mouvements d'extrême droite et quelques affairistes, le complotisme actuel reprend largement des valeurs d'amour et de partage que le monde moderne échoue bien souvent à incarner. On pourrait ici élaborer sur ce que cette perte de confiance et de repères dévoile de notre monde postmoderne. Le web y joue un rôle incontournable, notamment en donnant l'impression qu'on peut accéder à la connaissance sans avoir à fournir l'effort nécessaire à sa production et en se rattachant au bon gourou. Cependant, le besoin de trouver des sources de savoir dignes de confiance, d'expliquer un monde complexe et de se doter de repères moraux persiste. C'est alors que le complotisme offre une explication aux circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie, ainsi qu'aux problèmes du mal dans l'histoire, voire à l'échec de la mise en œuvre de valeurs chrétiennes ou progressistes dans la modernité, tout en proposant une voie de salut facilement praticable, mais trompeuse. Faire ses recherches et dénoncer le complot. C'était « Complotisme, quand la croyance s'emballe » par Siegfried L. Matelet et Xavier Camus, paru en automne 2021 dans la revue Relations.
Quels arbres causent le plus d'allergies saisonnières? Un texte de Joël Leblanc, paru le 4 avril 2022 dans le magazine Québec Science. Nos stratégies de gestion des allergies saisonnières sont basées sur des connaissances très lacunaires du potentiel allergène des différents pollens. C'est le temps d'un grand ménage. Des démangeaisons et picotements aux yeux très vifs, accompagnés de sensations d'aiguilles qui percent le globe oculaire, en même temps que les yeux deviennent extrêmement enflammés et versent copieusement un épais fluide muqueux. Vient ensuite l'irritation du nez, provoquant des crises d'éternuement d'une extrême violence, auxquelles s'ajoute une sensation d'oppression de la poitrine et une difficulté à respirer. C'est en ces termes qu'en 1819, le médecin anglais John Bostock énumère pour la première fois des symptômes qui surviennent chaque année en juin et juillet chez un patient qu'il connaît très bien, lui-même. Le court article décrit officiellement ce qu'on appelle aujourd'hui les allergies saisonnières ou rhumes des foins. Le médecin torturé explique aussi ne pas trop savoir à quoi sont dus ces malaises estivaux et liste différents traitements qu'il a essayés sans trop de succès, comme les saignées, les bains froids ou l'opium. Il présente alors l'affection comme rare et inhabituelle. Aujourd'hui, les allergies saisonnières touchent presque 20 % de la population, du moins en Europe et en Amérique du Nord. Et le problème va en s'aggravant. La prévalence des allergies saisonnières semble être en constante augmentation depuis les dernières décennies, et ce, à l'échelle mondiale, indique Audrey Smargiassi, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. L'hypothèse la plus plausible, les changements climatiques. Les arbres ont une période de croissance allongée, ils produisent plus de pollen et ce pollen a une allergénicité plus élevée. Une épidémie d'allergie, donc, qui, au-delà des désagréments physiques, que vivent les gens atteints, coûte cher à la société. Les évaluations financières les plus récentes datent de 2005 et vont de 156,5 à 240 millions de dollars annuellement en frais de consultation, en achat de médicaments, en pertes dues à l'absentéisme au travail. 17 ans plus tard, ces coûts ont assurément augmenté. C'est que même si l'on a compris que les pollens transportés dans l'air estival étaient les grands responsables des yeux qui piquent et des nez qui coulent, de nombreuses questions n'ont pas plus de réponses qu'au temps de John Bostock. On veut verdir les villes, et avec raison. Mais on n'a pas de données fiables sur les espèces d'arbres à privilégier pour ne pas exacerber les allergies des résidents, fait observer Alain Paquette, professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et titulaire de la chaire de recherche sur la forêt urbaine. On s'entend à peu près tous sur le fait que le pollen de bouleau est l'un des principaux coupables. Mais pour les autres espèces, c'est le néant, ou presque. Cela devient un problème de santé publique. Il y a donc urgence à enquêter, ce à quoi son équipe s'est attelée. La réalité sur le terrain, c'est que l'allergénicité, à un moment donné, dans une ville comme Montréal, peut varier selon les arrondissements ou même selon les rues, selon Alain Paquette, professeur à l'UQAM et titulaire de la recherche sur la forêt urbaine. La chasse aux données. Les questions sont nombreuses. Le pollen de l'érable argenté est-il plus allergène que celui de l'érable de Norvège, par exemple? Y a-t-il des seuils déclencheurs différents pour chaque espèce? Des pollens inoffensifs en solo peuvent-ils agir en synergie et devenir alors irritants? Il existe bien des bases de données sur l'allergénicité des espèces d'arbres dans différents pays, mais elles ont été créées sur des critères imprécis et de façon peu rigoureuse, signale Rita Souza Silva, qui a réalisé des études postdoctorales sur la question au laboratoire d'Alain Paquette. La conséquence, ces bases de données se contredisent parfois. Ainsi, l'érable de Norvège est considéré comme allergène par la base de données la plus utilisée aux États-Unis, alors que les outils d'ici le jugent inoffensif. On a démontré que les risques d'allergie estimés pour une ville comme Montréal varient de 1 à 74% selon la base de données utilisée. Ces résultats sont parus dans Scientific Reports en 2021. C'est pour combler ce vide que les chercheurs de l'UQAM se sont lancés dans un projet d'envergure, dresser une carte temporelle du niveau de risque d'allergie à une échelle locale pour Montréal. Durant l'été 2021, les chercheurs ont installé 24 stations d'échantillonnage à différents endroits de la métropole. Qualifiées de passives, elles consistaient en de simples récipients cylindriques de la dimension d'un gros pot de yogourt au fond duquel de la vaseline servait de piège à pollen. Avant cet ajout, il n'y avait qu'un seul échantillonneur de pollen sur toute l'île, propriété d'une entreprise privée. Elle vend ses données à des clients comme les chaînes météo, qui affichent des indices d'allergie en été, ou à des compagnies pharmaceutiques qui aiment bien savoir à quel moment elles doivent acheminer plus d'antihistaminiques dans les pharmacies pour suffire à la demande, précise Alain Paquette. Les informations obtenues grâce à cette unique station sont mieux que rien. Mais ce n'est pas suffisant, tempère le professeur. La réalité sur le terrain, c'est que l'allergénicité à un moment donné dans une ville comme Montréal, peut varier selon les arrondissements ou même selon les rues, sans compter que l'identification des pollens au microscope est très difficile. Même les plus ferrés ne peuvent pas désigner les arbres jusqu'à l'espèce, tout au plus peuvent-ils établir le genre. Par exemple, le genre Acer, qui regroupe les érables, compte plusieurs espèces et, entre l'arrivée du pollen de l'érable argenté et celle du pollen de l'érable de Norvège, il peut y avoir 4 semaines. On est toujours dans le flou. Visitez chaque semaine pendant toute la saison, les 24 nouveaux échantillonneurs ont permis de constituer un registre du pollen aérien de Montréal. L'identification de tous ces pollens a rivé les chercheurs à leur microscope. On travaille sur un protocole de laboratoire qui permettra d'identifier les pollens par analyse génétique, mentionne Alain Paquette. Ce sera bien plus rapide et précis. Maintenant qu'on a une idée de la variation des types de pollens à Montréal, il reste à coupler le tout avec des données sur l'intensité des allergies chez les résidents, détaille Rita Souza Silva. On a mis au point une application qu'on a fournie à des dizaines de Montréalais souffrant d'allergies. Pendant toute la saison 2022, ces volontaires vont indiquer la virulence de leurs symptômes et les lieux qu'ils visitent, et l'on tentera de faire des liens avec les différentes dispersions de pollen. À la clé, d'abord, une base de données précise du niveau d'allergénicité des espèces d'arbres qui, rappelons-le, n'existe pas. On saura enfin au pollen de quels arbres les gens sont surtout sensibles, espère Rita Souza Silva. Ensuite, cette information pourra être communiquée aux responsables de l'aménagement végétal de la ville. en connaissant de façon fiable les espèces les plus problématiques, les décideurs pourront éviter de les planter pour le bien-être de tous. Et surtout, de nos yeux rougis. Sexisme botanique. Planter de mauvaises espèces d'arbres en ville peut favoriser les allergies. Mais une autre pratique courante empire les choses. La plantation exclusive d'arbres mâles. C'est que chez certaines espèces, dites dioïques, les individus portent soit des structures reproductives mâles, les étamines productrices de pollen, soit les structures femelles, le pistil, qui captent le pollen et se transforment en fruits. Par paresse urbaine, la norme veut qu'on ne plante que des arbres mâles dans les villes pour éviter d'avoir à ramasser les graines et les fruits qui traînent au sol. Comme la proportion de mâles est exagérée, la quantité de pollen l'est aussi, comparativement à une distribution mâle-femelle plus naturelle. Une masculinisation des boisés urbains, normalisée partout en Occident, qui contribue un peu plus au calvaire des allergiques. C'était « Quels arbres causent le plus d'allergies saisonnières ?» un texte de Joël Leblanc, paru le 4 avril 2022, dans le magazine Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion, Hélène Lamarche à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Vartman à la présentation et au montage.